L'affaire Ida Bossard, tuée pour survivre. Au centre du tableau, en troisième position dans la sororie, Ida naît le 30 juin 1972 dans la douleur, contracte d'emblée la maladie bleue, une malformation cardiaque. Elle frôle la mort à ses 1 an, garde des séquelles, une fragilité qui l'indispose, qui l'empêche de suivre l'éducation spartiate imposée. Trop petite, pas assez costaude, elle est la souffre-douleur de Jean-Claude Bossard, sa mongolienne, sa ratée, comme il a mal appelé. C'est elle qu'il pousse dans les escaliers, dans le canal d'air qui coule au sud de Salomé. C'est elle qu'il aime voir terrorisée dans le réticule, qu'il oblige à creuser un trou dans le jardin, son trou, promettant qu'il l'y enterrera vivante. Le destin d'Ida et de sa famille bascule dans l'année 1989. Elle a 17 ans la nuit du lundi 10 au mardi 11 juillet, lorsque Christine, sa grande sœur, vient l'embrasser dans son lit avant de fuguer sur la pointe des pieds rejoindre un petit ami à Roubaix. Au matin, il ne reste qu'une lettre sur la table de la cuisine. « Mes chers parents, écrit Christine, je suis partie en voyage, ou presque. J'ai un honneur à défendre. Mon père, je ne veux surtout pas que tu te mettes de mauvaises idées en tête. N'aie pas aussi de colère furieuse contre moi. Je sais que ce que je vais faire ne va pas te plaire, mais sache que j'ai toujours et pour toujours les idées nationalistes. Mon combat est de vaincre ou périr. Je lutterai toujours pour mon idéal, celui de la race. Race, famille, patrie, France d'abord, blanche toujours. » Les mots couchés sur le papier n'ont aucun effet. Jean-Claude Bossard entre dans une rage terrible et se défoule sur Ida, persuadé de sa complicité. Celle-ci connaît bel et bien le secret de sa sœur, l'endroit où elle se serait enfuie, mais elle ne lâche rien, encaisse les coups de Rangers assénés dans son ventre, si sauvage qu'elle contracte une incontinence urinaire et requiert l'intervention d'un médecin. Déchaîné, impuissant, le père se cogne contre la majorité de sa fille aînée, libre de partir le plus loin possible, de bafouer son autorité. Alors il ruse, force Ida, sitôt capable de tenir debout, à aller déposer plainte contre Christine à la gendarmerie, en vue de provoquer une enquête, des recherches. « Dans la nuit du 10 au 11 juillet, déclare-t-elle sur son procès-verbal, j'ai entendu du bruit. Je ne sais pas au juste à quelle heure. Je me suis donc levée pour voir ce qu'il se passait. J'ai aperçu ma sœur qui faisait ses valises. Elle m'a ensuite donné un coup de pied dans le ventre. Je porte plainte pour coups et blessures volontaires à l'encontre de ma sœur Christine. » Tout au long de la semaine, Bossard se lance dans une traque effrénée, carabine sur l'épaule. Il écume le nord, les rues de Roubaix, Lille, Tourcoing. Dans la salle à manger, hors de portée des filles, il a posé en haut du carillon un pistolet automatique, calibre 22 long rifle, prêt à l'emploi, 6 balles dans le chargeur. Elles sont destinées à Christine. Sa mère, Jacqueline, est chargée de lui tirer dans les genoux si elle se risque à réapparaître. Le père rentre d'abord bredouille de sa chasse. Il prétendra quelques jours plus tard avoir enfin localisé sa fugitive. Survolté, il lui réserve une sentence inspirée des méthodes de torture employées dans les camps nazis. À la cave, il prépare le nécessaire. Cette corde à nœud coulant notamment, vouée à la suspendre par les pieds. Après quoi, il ira au bout de sa vengeance et annonce au reste de la famille qu'il les embarquera avec lui en voiture avant de balancer une grenade dans l'habitacle. Au soir du 17 juillet 1989, Ida est incapable de trouver le sommeil, on s'en doute. L'approche de l'échéance, l'effroyable issue concoctée par son père la hante. Aucune échappatoire, aucun allié disponible. Christine est partie, Mathilde est entièrement dévouée, la soldate, la moucharde à la solde du chef, et ses deux petites sœurs sont bien trop jeunes, Edwige a 13 ans, Erika à peine 1 année. Sa mère, aussi soumise et battue qu'elle, semble avoir abandonné toute résistance, affaiblie par sa poliomyélite. La moindre évocation de sa part d'un possible divorce, la moindre tentative pour se protéger, elle ou ses filles, lui vaut une volée de coups. Elle craint de plus la surveillance des gros bras du PNFE. Elle n'a pas, elle, l'opportunité d'avoir un jour 18 ans pour saisir sa liberté et foutre le camp d'ici. Elle est condamnée, résignée. Non, il n'y a qu'Ida pour agir, contrecarrer la folie de Bossard. À l'aube, elle a pris sa décision. Au matin du 19 juillet 1989, le carillon de la salle à manger sonne 8 heures. Jacqueline s'absente brièvement dehors, traîne les poubelles sur le trottoir. Ida en profite, tire une chaise, grimpe dessus, s'empare du pistolet automatique 22 long rifle sur l'horloge, chargé, prêt à l'emploi. Elle traverse le couloir, toise le portrait d'Hitler, monte les escaliers. À l'étage, elle se glisse dans la chambre de son père, endormie dans le lit, allongée sur le flanc gauche. Elle répète les gestes autrefois appris, le tient en joue, retire la sécurité, vise, expire et lui tire une balle dans la nuque. Elle redescend, enveloppe l'arme dans un chiffon, s'installe à la table de la salle à manger. Au retour de sa mère, elle lui dit « Je viens de tuer papa » et fond en larmes. Les gendarmes de la Bassée reçoivent le coup de téléphone de Jacqueline Bossard et se rendent aussitôt au 50 rue Saint-Michel-sur-Loire. Ils ont beau connaître le phénomène, l'avoir reçu dans leurs locaux à maintes reprises, cela fait quelque chose d'entrer chez Jean-Claude Bossard, de voir les croix gammées sur les murs. À l'étage, ils constatent sa mort, incroyable, en marcelle sous ses draps, et on le croirait toujours assoupi s'il n'y avait pas cet orifice, minuscule, dans la région occipitale droite. Pour une adolescente de 17 ans qui vient d'abattre son père, Ida Bossard garde un sang-froid ahurissant. Elle coopère immédiatement avec les gendarmes, leur remet le revolver dans le chiffon, l'essuie docilement dans la petite Renault bleue. En garde à vue, elle avoue tout. « J'ai caché le pistolet sous mon maillot », déclare-t-elle sur son procès-verbal. « Je suis montée à toute vitesse. Arrivée dans la chambre de mon père, je suis passée tout droit en face de lui pour aller me placer derrière lui. » J'ai pris le pétard et je lui ai mis tout de suite une balle, sans hésiter, parce que sinon j'aurais eu trop peur. J'avais peur de le rater, mais je ne l'ai pas raté. Autour de son inculpation émane une bienveillance inhabituelle. Gendarmes, codétenus, surveillantes, psychiatres, juges d'instruction, font tous preuve d'empathie, tous comprennent qu'il ne pouvait en être autrement. Si la magistrate en charge du dossier prononce la mise en détention provisoire d'Ida, c'est uniquement pour la protéger des conséquences de son acte. Ses grandes sœurs ne lui pardonnent pas la transgression, les proches du PNFE non plus. Ida séjourne une dizaine de jours à la maison d'arrêt de Lousse, avant d'être placée discrètement en foyer, dans l'Aisne, puis en famille d'accueil, dans la Creuse, à l'abri. La brigade de recherche de la gendarmerie de Lille écope de l'enquête, et moins au fait de leurs confrères de la Bassée, doutent de la capacité d'Ida à commettre un parricide. Trop frêle, trop douce, elle fait gamine de 12 ans avec ses taches de rousseur, ses longs cheveux roux qui lui tombent devant les yeux. Elle ne cessera jamais de leur démontrer le contraire, lors des reconstitutions, clinique dans le maniement des répliques d'armes à feu, lucide dans son récit, dans les fondements de son mobile, dans l'horreur tramée chez elle depuis plus de 20 ans, et à laquelle elle seule a su s'opposer.